Champagnac, atroce absurdité de la torture. La torture, dit Beccaria, est souvent un sûr moyen de condamner l'innocent faible et d'absoudre le scélérat robuste. C'est là ordinairement le résultat terrible de cette barbarie que l'on croit capable de produire la vérité, de cet usage digne des cannibales, et que les Romains, malgré la dureté de leurs mœurs, réservaient pour leurs seuls esclaves, pour ces malheureuses victimes d'un peuple dont on a trop vanté la féroce vertu. Le résultat de la question est une affaire de tempérament et de calcul qui varie dans chaque homme en proportion de sa force et de sa sensibilité, de sorte que pour prévoir le résultat de la forte torture, il ne faudrait que résoudre le problème suivant, plus digne d'un mathématicien que d'un juge, la force des muscles et la sensibilité de fibres d'un accusé étant connus, trouver le degré de douleur qui l'obligera à s'avouer coupable d'un crime donné. La philosophie et l'humanité ont fait triompher cette vérité dans le siècle dernier. Et le règne de Louis XVI vit la torture abolie en France et pour jamais. Des milliers d'innocents ont péri victimes de ce supplice anticipé. Nous allons citer deux faits qui confirmeront pleinement l'assertion de Beccaria. Au commencement du XVIIe siècle, deux jeunes gens d'une ville du Midi de la France étaient liés de la plus étroite amitié. L'un des deux devient éperdument amoureux d'une jeune personne de la même ville. Il sollicite sa main. Les parents lui répondent qu'elle est promise et que ce mariage, leur fille, doit se faire dans sous peu de jours. Le jeune homme est atterré de cette réponse qui renverse tous ses rêves de bonheur. Il s'abandonne au désespoir. Sa tête se perd et son ami fait de vains efforts pour adoucir son chagrin. Aucune maison, aucun motif de consolation ne peut calmer cette imagination en délire. La plus sombre mélancolie succède au transport du premier moment. Puisque celle qu'il adore ne pourra jamais lui appartenir, il ne voit plus de bonheur possible pour lui sur la terre. Il médite sa propre destruction. Un peu rassuré par son calme apparent, son ami s'applaudissait de le voir revenir à des sentiments plus raisonnables. Mais le jour fatal, fixé pour le mariage de celle qu'il aime arrive, il n'en était pas prévenu. Les deux amis causaient paisiblement à la fenêtre d'un joyeux cortège, et le joyeux cortège de la mariée passe. L'infortuné, il a vu, il a reconnu, sous sa robe encore virginale, celle qui va devenir l'épouse d'un autre, celle qui occupe toutes ses pensées. Il jette un cri de douleur, se précipite sur l'épée de son ami et perce de plusieurs le corps sans que celui-ci puisse l'en empêcher. Il tombe dans son sang et meurt en peu d'instants. À cet affreux spectacle, le malheureux ami est frappé de terreur. Et dans son trouble, il tire son épée toute sanglante des mains inanimées du cadavre et, sans réflexion, sort précipitamment de la maison, tenant cette arme à la main. Son désordre, ses yeux hagards, cette épée ternie de sang fixent l'attention. On l'arrête sur le champ. On entre dans la maison d'où on l'a vu sortir. On trouve le corps du jeune homme percé de plusieurs coups. On en conclut que celui qui a pris la fuite est l'assassin. Soit que cet homme fût trop troublé pour pouvoir se justifier, soit qu'on ne voulut pas l'entendre, on l'entraîne à la prison comme un criminel. Le juge fait appliquer la question et, vaincu par la douleur, il avoue qu'il a assassiné son ami. On ne cherche plus d'autres preuves. Le malheureux, victime de son amitié, meurt sur la route. Cependant, son innocence ne tarda pas à être mise au grand jour. En faisant des recherches dans les papiers du jeune homme que l'on croyait mort, victime d'un assassinat, on trouva une lettre cachetée, écrite par lui tout récemment et adressée à ses parents, dans laquelle il leur annonçait que, ne pouvant plus supporter une existence qui lui était à charge, il était déterminé à la quitter. En terminant, il leur demandait pardon et les priait d'accueillir ses derniers aveux et de le plaindre. La découverte d'un semblable document aurait dû briser le cœur du juge qui avait prononcé la sentence de mort et le faire gémir toute sa vie sur l'iniquité de la torture. L'autre fait est tiré du recueil d'arrêt d'Annaeus Robert et n'est pas moins concluant. Une femme veuve ayant disparu tout à coup du village d'Ietchi, où elle demeurait, sans être aperçue dès lors dans aucun lieu du voisinage, le bruit courut qu'elle avait péri par la main de quelque scélérat qui avait sectement enseveli son cadavre pour mieux la cacher et cacher son crime. Le juge criminel de la province ordonne de perquisition. Ces gens aperçurent par hasard un homme caché dans les broussailles. Il leur parut effrayé et tremblant. Ils s'en saisirent, et sur le simple soupçon qu'il était l'auteur du crime, on le déféra au provincial de la province. Cet homme parut supporter courageusement la torture, mais apparemment, par pur désespoir et las de la vie, il finit par se reconnaître coupable de meurtre. Sur ses aveux, mais sans autre preuve, il fut condamné à la peine de mort. 2 ans après son supplice, la femme que l'on croyait morte et qui n'était qu'absente revint au village. La voix publique s'éleva contre les juges. Ils avaient condamné le prévenu, comme il n'arrive que trop souvent, sans avoir auparavant fait constater l'homicide. De telles horreurs commises au nom de la justice font frissonner de terreur et d'indignation.